Chapitre 4, février 1816. Jeudi 1er février, éloge de Sainte-Hélène par l'empereur, petite ressource de l'île. La philosophie la plus heureuse et la plus sage est celle qui nous fait voir parfois le côté le moins défavorable des circonstances les plus fâcheuses. L'empereur, dans ce sentiment sans doute, nous disait aujourd'hui, en se promenant au fond du jardin, qu'après tout, exil pour exil, Sainte-Hélène était peut-être encore la meilleure place. Dans les latitudes élevées, nous aurions eu beaucoup à souffrir des rigueurs du froid, et nous aurions expiré misérablement sous l'ardeur brûlante de toute autre île du tropique. Le rocher de Sainte-Hélène, continuait-il, était stérile, sauvage sans doute, le climat y était monotone, insalubre, mais la température, il fallait en convenir, était douce. La conversation l'a amené à me demander ce qui eût été préférable de l'Amérique ou de l'Angleterre dans le cas où nous eussions été libres de nos mouvements. Je répondais que si l'empereur avait voulu vivre en philosophe, en sage, dans le repos et loin désormais de l'agitation du monde, il aurait fallu choisir l'Amérique. Mais pour peu qu'il eût conservé le sentiment ou l'arrière-pensée des affaires, il eût fallu préférer l'Angleterre. Et ne voulant pas rester en arrière sur la peinture flatteuse que l'empereur venait de tracer de notre misérable rocher, j'osais même dire qu'il pourrait être telle chance qui fisse que Sainte-Hélène ne se serait pas trouvée le pire des exils. Nous y demeurions à l'écart, quand la tempête rugissait pour les autres, nous nous y trouvions hors de l'atmosphère des passions, circonstance favorable aux chances possibles d'un meilleur avenir. C'était assurément un grand désir de voir en beau. Je reculais l'horizon de toute l'étendue de l'imagination. En attendant, pour se faire une juste idée de l'état de notre exil et de ses ressources, il nous a été dit dans la journée que nous devions mettre de l'économie dans plusieurs de nos consommations, peut-être même nous attendre à en faire le sacrifice momentané. On nous a dit que le café devenait extrêmement rare et qu'il pourrait manquer bientôt. Depuis longtemps, nous n'avions plus de sucre blanc, il n'en reste plus aujourd'hui que fort peu et très mauvais, réservé exclusivement pour l'empereur, et nous sommes menacés de le voir bientôt finir. Il en est de même pour plusieurs autres productions essentielles. Notre île est un vaisseau qui tient la mer. Il manque bientôt si la traversée se prolonge ou si on le surcharge de bouches outre mesure. Nous avons suffi pour affamer Sainte-Hélène, d'autant plus que les bâtiments de commerce ne peuvent désormais en approcher. On dirait que ce lieu est devenu pour eux un écueil maudit et redouté, si l'on ne savait que la croisière anglaise donne ses soins à les tenir éloignés. Mais ce qui, dans les privations dont nous sommes menacés, nous a surpris davantage et nous affectait le plus, c'est le manque de papier à écrire. On nous a dit que depuis 3 mois que nous étions ici, nous avions épuisé les magasins de la colonie, ce qui prouverait qu'ils sont d'ordinaire légèrement fournis, ou bien que nous en faisions une furieuse consommation. Notre seule réunion à Longwood en emploierait donc à elle seule 6 ou 8 fois plus que tout le reste de la colonie ensemble. Qu'on joigne à ces détails matériels nos privations physiques et morales, qu'on se dise que nous ne jouissons pas même des ressources de l'île, dont l'arbitraire et le caprice nous privent en partie, ou nous y refusent l'herbe et le feuillage qui se trouvent dans d'autres sites de l'île. L'amiral avait promis à l'empereur qu'il pourrait circuler par toute l'île, parce qu'il pourvoirait à une surveillance que le captif soupçonnerait à peine. On a vu qu'à la seconde épreuve, l'amiral avait rompu cette espèce d'engagement. Un officier, par ses ordres, a prétendu se mêler avec nous. L'empereur a renoncé dès lors à toutes sortes d'excursions et nous demeurons séquestrés réellement du commerce des hommes. Notre vie animale est des plus misérables. Soit impossibilité d'être mieux, soit mauvaise administration à cet égard, toutefois est-il rien de mangeable. Le vin est des plus mauvais. On ne saurait employer l'huile. Je viens de dire que le café, le sucre manquent et que nous affamons l'île. On sait bien qu'on peut se passer de tout, qu'on pourrait ne pas mourir à beaucoup moins, mais quand on prétend nous traiter avec magnificence et nous persuader que nous sommes très bien, on nous amène à nous récrier sur ce que nous sommes très mal et sur ce que nous manquons de tout. Si l'on s'avisait de supposer, sur notre silence, que nous sommes heureux, qu'on apprenne du moins que la seule force de notre morale peut nous faire résister à des maux que les expressions ne sauraient rendre. Vendredi 2, première saignée de mon fils, l'empereur me donne un cheval. Mon fils depuis longtemps souffrait de la poitrine, il avait de fortes palpitations. J'ai réuni 3 chirurgiens, ils l'ont condamné à la saignée. C'est du reste en ce moment chez les Anglais le remède en faveur, la panacée universelle. Ils l'emploient pour tout et pour rien. Ils rient de notre étonnement, nous pour qui ce système est nouveau. Vers le milieu du jour, nous avons fait un tour en calèche. Au retour de la promenade, l'empereur s'est fait amener un cheval qu'on venait d'acheter. Il était fort beau et d'une jolie tournure. Il l'a fait essayer, l'a trouvé fort bien et me l'a donné à l'instant même avec une bonté toute particulière. Je n'ai pu en faire usage, il s'est trouvé vicieux et a passé alors au général Gourgaud, meilleur écuyer que moi. Samedi 3 au mardi 6, progrès de l'empereur dans l'anglais. Le 3 a été affreux, la pluie a été constante, impossible de sortir. Le mauvais temps a duré plusieurs jours de la sorte. Jamais je n'aurais soupçonné que nous puissions être aussi longtemps sans la possibilité de nous hasarder dehors. L'humidité nous enveloppait de toutes parts, la pluie gagnait au travers de notre toiture. Nos heures intérieures se ressentent de ce mauvais temps du dehors, j'en étais triste apparemment. « Qu'avez-vous ? » me disait l'empereur un de ces matins. « Depuis quelques jours, vous changez, serait-ce le moral ? Vous feriez-vous des dragons à la manière de Madame de Sévigné ?» Je répondais, « Sire, c'est le physique, l'état de mes yeux m'attriste à la mort, car le moral, je sais le tenir en bride. Au besoin, j'aurai le bridon, et votre majesté m'a donné des éperons, qui seraient une dernière et victorieuse ressource. » Cependant, l'empereur travaillait 3, 4, jusqu'à 5 heures de temps à l'anglais. Les progrès devenaient réellement très grands. Il en était parfois frappé lui-même et s'en réjouissait en enfant. Il disait un de ses jours à table, et il le répète souvent, qu'il me doit cette conquête et qu'elle est bien grande. Je n'y aurais pourtant pas eu d'autre mérite que celui que j'ai employé pour les autres travaux de l'empereur, d'avoir osé en donner l'idée et d'y être revenu sans cesse, et une fois entamé, d'avoir mis dans la partie de l'exécution qui dépendait de moi une promptitude et une régularité journalière qui faisaient tout son encouragement. S'il arrivait qu'on ne fût pas prêt quand il nous demandait, il fallait renvoyer au lendemain. Le dégoût le saisissait aussitôt et le travail en demeurait là jusqu'à ce que quelque chose vînt le remonter. « J'ai besoin d'être poussé, me disait-il confidentiellement dans une de ces interruptions passagères. Le plaisir d'avancer peut seul me soutenir. Car, mon cher, nous pouvons en convenir entre nous, rien de tout ceci n'est amusant, il n'y a pas le mot pour rire dans toute notre existence. » Après dîner, l'empereur faisait toujours plusieurs parties d'échecs. À nos après-midi, nous reprîmes le reversi qui avait été longtemps abandonné. Comme on ne payait pas jadis très régulièrement, on convint désormais d'en faire une masse commune. On discuta sur sa destination future, l'empereur demanda les avis, quelqu'un proposa de l'employer à délivrer la plus jolie esclave de l'île. Cette opinion enleva tous les suffrages, l'on se mit au jeu avec ardeur, et la première soirée produisit 2 napoléons et demi. Mercredi 7, jeudi 8, l'empereur apprend la mort de Murat. La frégate La Thébaine est arrivée du Cap et nous a apporté plusieurs journaux. Je les traduisais à l'empereur en nous promenant dans le jardin. Un de ces papiers renfermait une grande catastrophe. Je lus que Murat, ayant débarqué avec quelques hommes en Calabre, y avait été saisi et fusillé. À ces paroles inattendues, l'empereur, me saisissant le bras, s'est écrié « Les Calabrais ont été plus humains et plus généreux que ceux qui m'ont envoyé ici. » Ce fut tout. Après quelques moments de silence, comme il ne disait plus rien, je continuai. Murat, sans vrai jugement, sans vue solide, sans caractère proportionné à ses circonstances, venait de périr dans une tentative évidemment désespérée. Il n'est pas impossible que le retour de l'empereur de l'île d'Elbe ne lui eût tourné la tête et qu'il espérait peut-être en renouveler le prodige pour son propre compte. Ainsi périt si misérablement celui qui avait été une des causes si actives de nos malheurs. En 1814, son courage, son audace pouvaient nous tirer de l'abîme, sa trahison nous y précipita. Il neutralisa le vice-roi sur le Pô, il y combattit, lorsque, réunis ensemble, ils eussent pu forcer les gorges du Tyrol, descendre en Allemagne et venir sur Bâle et les rives du Rhin, détruire, saisir les derrières des alliés et leur couper toute retraite en France. L'empereur à l'île d'Elbe dédaigna toute communication avec le roi de Naples. Mais, partant pour la France, il lui écrivit qu'allant reprendre possession de son trône, il se plaisait à lui déclarer qu'il n'était plus de passé entre eux, qu'il lui pardonnait sa conduite dernière, lui rendait sa bienfaisance, lui envoyait quelqu'un pour lui signer la garantie de ses états et lui recommandait, sur toute chose, de se maintenir en bonne intelligence avec les Autrichiens et de se contenter de les contenir, le cas échéant, où il voudrait marcher sur la France. Murat, en ce moment, tout au sentiment de sa première jeunesse, ne voulut ni garantie ni signature. La parole de l'empereur, son amitié lui suffisait, s'écriait-il. Il prouverait qu'il avait été plus malheureux que coupable. Son dévouement, son ardeur allait, disait-il, lui obtenir l'oubli du passé. Mais il était dans la destinée de Murat, disait l'empereur, de nous faire du mal. Il nous avait perdus en nous abandonnant, il nous perdit en prenant trop chaudement notre parti. Il ne garda plus aucune mesure, il attaqua lui-même les Autrichiens sans plan raisonnable, sans moyens suffisants, et il succomba sans coup férir. Les Autrichiens, délivrés de cet obstacle, s'en servirent comme de raison ou de prétexte pour en augurer des vues ambitieuses dans Napoléon reparaissant sur la scène. C'est ce qu'ils lui objectèrent constamment toutes les fois qu'il leur protesta de sa modération. L'empereur, avant la circonstance malheureuse des hostilités de Murat, avait déjà noué quelques négociations avec l'Autriche. D'autres États inférieurs, que je crois inutile de nommer, lui avaient fait dire qu'ils pouvaient compter sur leur neutralité. Nul doute que la chute du roi de Naples n'ait donné aussitôt une autre tournure aux affaires. On a essayé de faire passer Napoléon pour un homme terrible, implacable. Le vrai, c'est qu'il était étranger à toute vengeance et ne savait pas conserver de rancune quelque mal qu'on lui eût fait. Son courroux d'ordinaire s'exhalait par des sorties violentes et c'était là tout. Ceux qui le connaissaient le savaient bien. Murat l'avait outrageusement trahi. On vient de lire qu'il l'avait perdu deux fois et cependant c'est à Toulon que Murat accourt chercher un asile. « Je l'eusse amené à Waterloo, nous disait Napoléon, mais l'armée française était tellement patriotique, si morale, qu'il est douteux qu'elle ait voulu supporter le dégoût et l'horreur qu'avait inspiré celui qu'elle disait avoir trahi, perdu la France. Je ne me crus pas assez puissant pour l'y maintenir, et pourtant il nous eût valu peut-être la victoire. » Car que nous fallait-il, dans certains moments de la journée, enfoncer trois ou quatre carrés anglais? Or Murat était admirable pour une telle besogne. Il était précisément l'homme de la chose. Jamais à la tête d'une cavalerie on ne vit quelqu'un de plus déterminé, de plus brave, d'aussi brillant. Quant au parallèle des circonstances de Napoléon et de Murat, celui de leur débarquement respectif en France et sur le territoire de Naples, il n'en saurait exister aucun, disait l'empereur. Murat n'avait d'autre bon argument dans sa cause que le succès, et il était purement chimérique au moment où et de la manière dont il l'a entrepris. J'étais l'élu d'un peuple, j'étais le légitime dans leur doctrine nouvelle. Mais Murat n'était point napolitain, les napolitains n'avaient jamais élu Murat. Était-il à croire qu'il pût exciter parmi eux un bien vif intérêt? Aussi sa proclamation était tout à fait fausse et vide de choses. Ferdinand de Naples devait et pouvait ne le présenter que comme un fauteur d'insurrection. C'est ce qu'il a fait et il l'a traité en conséquence. « Quelle différence avec moi !» a continué Napoléon. « Avant mon arrivée, toute la France était déjà pleine d'un même sentiment. Je débarque et ma proclamation n'est pleine que de ce même sentiment. Chacun y lit ce qu'il a dans le cœur. La France était mécontente, j'étais sa ressource. Les mots et le remède furent aussitôt en harmonie. Voilà toute la clé de ce mouvement électrique sans exemple dans l'histoire. Il prit sa source uniquement dans la nature des choses. Il n'y eut point de conspiration, et l'élan fut général. Pas une parole ne fut portée, et tout le monde s'entendit. Les populations entières se précipitaient sur le passage du libérateur. Le premier bataillon que j'enlevai de ma personne me valut aussitôt la totalité de l'armée. Je me trouvai porté jusqu'à Paris. Le gouvernement existant, tous ses agents disparurent sans effort, comme les nuages se dissipent à la vue du soleil. Et encore eussé-je succombé, terminait l'empereur, encore fussé-je tombé dans les mains de mes ennemis, je n'étais pas purement un chef d'insurrection, j'étais un souverain reconnu de toute l'Europe. J'avais mon titre, ma bannière, mes troupes, je venais faire la guerre à mon ennemi. Vendredi 9, Porlier, Ferdinand, tableau de l'Atlas. Dans les gazettes que je traduisais à l'empereur, j'avais trouvé l'histoire de Porlier. C'était un des chefs les plus remarquables des fameuses guérillas. Il venait d'essayer d'en appeler à la nation contre la tyrannie de Ferdinand, mais il avait échoué, avait été pris et pendu. L'empereur a dit « Je ne suis pas du tout surpris de cette tentative en Espagne. » À mon retour de l'île d'Elbe, ceux des Espagnols qui s'étaient montrés les plus acharnés contre mon invasion, qui avaient acquis le plus de renommée dans la résistance, s'adressèrent immédiatement à moi. Ils m'avaient combattu, disaient-ils, comme leur tyran, ils venaient m'implorer comme un libérateur. Ils ne me demandaient qu'une légère somme, disaient-ils, pour s'affranchir eux-mêmes et produire dans la péninsule une révolution semblable à la mienne. Si j'eusse vaincu à Waterloo, j'allais les secourir. Cette circonstance m'explique la tentative d'aujourd'hui. Nul doute qu'elle se renouvelle encore. Ferdinand, dans sa fureur, a beau vouloir serrer avec rage son sceptre, un de ces beaux matins, il lui glissera de la main comme une anguille. Les gazettes finies, l'empereur, dans son oisiveté, feuilletait mon atlas. J'ai eu la grande satisfaction de le voir enfin s'arrêter sur les tableaux généalogiques, ce que je désirais depuis bien longtemps, car il les passait toujours. J'ai analysé devant lui, sur le tableau de l'Angleterre, la fameuse guerre de la rose rouge et de la rose blanche, inintelligible pour le grand nombre de lecteurs sans le recours de pareils tableaux. Il a été frappé par leur utilité et s'est mis alors à en parcourir un grand nombre d'autres. Il remarquait, à celui de Russie, qu'il serait bien difficile, sans un tel secours, de suivre l'ordre irrégulier de succession des derniers souverains, et il a été fort surpris, à celui de France, de la démonstration singulière qu'en dépit de 7 ou 8 applications de la loi salique, Louis XVI eût encore régné, comme si cette loi salique n'eût point existé. L'empereur s'arrêtait beaucoup sur l'encadrement rigoureux et complet de ces tableaux. Il ne revenait pas de la quantité de points de ralliement qui s'y trouvaient indiqués en un si petit espace. L'ordre numérique du souverain, son degré de génération, l'ensemble de toute sa parenté, etc. Et il me répétait alors ce qu'il m'avait déjà dit, ou à peu près, que s'il les eût bien connus dans le temps, il m'eût fait venir pour obtenir de moi un format plus commode, moins coûteux, et en faire la pâture des lycées. Il ajoutait qu'il eût voulu voir toutes les histoires réimprimées avec de tels documents à l'appui pour leur intelligence. Je lui disais que j'avais eu la même idée, qu'elle avait déjà été exécutée sur l'histoire de l'Angleterre par Hume, et que, sans nos derniers événements, elle allait l'être sur l'histoire de l'Allemagne de Pfeffelt, sur celle de France de Hainaut, et sur une histoire des 3 couronnes du Nord, etc. Sur les 4 heures, j'ai présenté à l'empereur le capitaine de la Thébaine, qui partait le lendemain pour l'Europe, et le colonel Macquois du régiment de Ceylan. Ce brave soldat semblait un monument mutilé. Il avait une jambe de moins, un coup de sabre lui traversait le front, d'autres cicatrices couvraient son visage. Il était tombé sur le champ de bataille en Calabre et demeurait prisonnier du général Partonneau. L'empereur lui fit un accueil tout particulier. On pouvait voir qu'il y avait sympathie réciproque. Le colonel McCoy avait été major du régiment corse que commandait le nouveau gouverneur que nous attendions. Ce colonel disait à quelqu'un qu'il trouvait un homme tel que l'empereur bien maltraité ici et qu'il supposait au général Law trop d'élévation pour ne pas penser que sa seule acceptation du gouvernement de l'île annonçait qu'il y viendrait améliorer notre condition. L'empereur est ensuite monté à cheval. Nous avons remonté notre vallée accoutumée et ne sommes rentrés que vers les 7 heures. L'empereur a continué à se promener dans le jardin. La température était des plus douces, le clair de lune charmant, le beau temps était revenu tout à fait. Samedi 10, sur l'Égypte, ancien projet sur le Nil. À présent, l'empereur allait couramment dans son anglais, et à l'aide du dictionnaire, il eût pu à la rigueur se passer de moi. Ses progrès décidés le ravissaient. La leçon s'est passée aujourd'hui à lire, dans l'Encyclopédie britannique, l'article du Nil, dont il prenait occasionnellement quelques notes pour ses dictées au grand maréchal. Il s'y est trouvé une citation dont jadis j'avais entretenu l'empereur, qu'il avait considéré jusque-là comme absurde. Le grand Albuquerque proposait au roi du Portugal de détourner le Nil avant son entrée dans la vallée d'Égypte et de le rejeter dans la mer Rouge, ce qui eût rendu l'Égypte un désert impraticable et consacré le cap de Bonne-Espérance pour la route unique du grand commerce des Indes. Bruce ne croit pas que cette gigantesque idée soit entièrement impossible. Elle frappait singulièrement l'empereur. Sur les 5 heures, l'empereur est monté en calèche. La promenade a été extrêmement agréable. La précaution d'avoir fait abattre quelques arbres a triplé l'espace primitif en créant plusieurs circuits naturels. Au retour, on a profité de la belle soirée pour se promener longtemps dans le jardin. La conversation a été des plus intéressantes, les sujets étaient grands et profonds. C'était sur les diverses religions, l'esprit qui les avait dictées, les absurdités, les ridicules dont on les avait entremêlés, les excès qui les avaient dégradés, les objections qu'on leur avait opposées. L'empereur a traité tous ces sujets avec sa supériorité ordinaire. Dimanche 11, uniformité, ennui, solitude de l'empereur, caricature. L'empereur a lu aujourd'hui l'article « Égypte » en anglais dans l'Encyclopédie britannique et en a recueilli des notes qui ne laissent pas que de lui être utile pour sa campagne d'Égypte. Cette circonstance lui est très agréable et lui fait répéter plusieurs fois par jour combien il se trouve heureux de ses progrès. Il est de fait qu'il peut maintenant lire tout seul. Sur les 4 heures, j'ai suivi l'empereur dans le jardin. Nous y avons marché seuls pendant quelque temps. Bientôt après, on est venu nous rejoindre. La température était fort douce. L'empereur a fait observer le calme de notre solitude. C'était dimanche, tous les ouvriers étaient au loin. Il a ajouté qu'on ne nous accuserait pas du moins de dissipation ni d'ardente poursuite de plaisir. En effet, il est difficile d'imaginer plus d'uniformité et plus d'absence de toute diversion. L'empereur soutient cette situation d'une manière admirable. Il nous surpasse tous de beaucoup par l'égalité de son caractère et la sérénité de son humeur. Il était difficile d'être plus sage et plus tranquille que lui, remarquait-il. Il se couchait à 10 heures, ne se levait ou plutôt ne paraissait qu'à 5 ou 6 heures du soir. Sa vie extérieure n'était donc guère, disait-il, de plus de 4 heures. C'était celle du prisonnier qu'on tire chaque jour de son cachot pour le laisser respirer un peu. Mais que de pensées dans son long intérieur, que de travaux même. Et au sujet du travail, l'empereur disait qu'il se trouvait aussi fort qu'il l'avait jamais été, qu'il ne se sentait ni flétri, ni usé en quoi que ce fût, qu'il s'étonnait lui-même du peu d'effet sur lui des grands événements dont il avait été dernièrement l'objet. C'était du plomb, disait-il, qui avait glissé sur du marbre. Le poids avait pu comprimer le ressort, mais n'avait pu le briser. Il s'était relevé avec toute son élasticité. L'empereur ajoutait n'imaginer personne au monde qui eût mieux plié que lui sous la nécessité sans remède. Et c'était là, disait-il, le véritable empire de la raison, le vrai triomphe de l'âme. L'heure de la calèche est arrivée. En allant la joindre, l'empereur a aperçu la petite Hortense, la fille de Madame Bertrand, qui lui plaît beaucoup. Il l'a fait venir, l'a embrassée tendrement 2 ou 3 fois, et a voulu la prendre en voiture avec le petit Tristan de Montholon. Durant la course, le grand maréchal, qui venait de parcourir les journaux arrivés, racontait divers bons mots et caricatures qu'il y avait trouvées. Il nous en citait une assez piquante. 2 actions composaient le tableau. L'une était Napoléon, donnant à la princesse d'Asfeld, pour la jeter au feu, la lettre dont la disparition sauvait son mari. Au bas était « Acte tyrannique d'un usurpateur ». Le pendant était de toute autre nature. C'était Madame de Labédoyère et son fils, prosternés aux pieds du roi, qui la repoussaient, tandis qu'on fusillait à quelques pas. Et au bas était écrit « Acte paternel de la légitimité ». Cela nous a conduit à raconter à l'empereur la foule de caricatures dont nous avions été inondés après la Restauration. Il en était beaucoup qui l'ont fort amusé. Une surtout l'a fait sourire, c'était le château des Tuileries. Une troupe d'oies de dindons entrait, dandinant par la porte, poussée par un cercle de soldats de toutes nations et de toutes armes. Au même moment sortait des fenêtres du premier un aigle aux ailes étendues, s'éloignant d'un vol fier et rapide, et en bas on lisait « Changement de dynastie ». L'empereur a observé que si les caricatures vengeaient quelquefois le malheur, elles harcelaient sans cesse le pouvoir. « Et combien n'en a-t-on pas fait sur moi » disait-il. Alors il nous en a demandé quelques-unes. Parmi toutes celles que nous avons citées, il a fort applaudi celle-ci comme fort jolie et d'un fort bon goût. C'était le vieux George III qui, de sa côte d'Angleterre, jetait en colère à la tête de Napoléon, sous la rive opposée, une énorme betterave en disant « Va te faire sucre !» Lundi 12, longue course à pied de l'empereur. Vers les 4 heures, l'empereur se promenait dans le jardin. La température était des plus agréables. Chacun de nous se récriait sur ce que c'était une de nos plus belles soirées d'Europe. Nous n'avions encore rien éprouvé de pareil depuis notre arrivée dans l'île. L'empereur a fait demander la calèche et, comme par diversion, il a voulu laisser là nos arbres à gomme pour aller par le chemin qui conduit chez le grand maréchal, prendre la route qui contourne le bassin supérieur de notre vallée favorite et gagner, si c'était possible, le site appartenant à une demoiselle maçon qui est sur le revers opposé en face de Longwood. Arrivé chez Madame Bertrand, l'empereur l'a fait monter dans sa calèche, où se trouvaient déjà Madame de Montholon et moi. Le reste suivait à cheval. Nous étions tous réunis. À quelques pas de chez Madame Bertrand, au poste militaire même qui s'y trouve établi, le terrain était fort à pic et très inégal. Les chevaux se sont refusés et il a fallu descendre. La barrière s'est trouvée à peine suffisante pour la largeur de la voiture. Mais les Anglais sont accourus et de tout cœur l'ont, en cet instant, fait franchir à force de bras. Cependant, une fois dans le nouveau bassin, la promenade à pied était si agréable que l'empereur a voulu la continuer. Au bout de quelque temps, comme le jour baissait, il a voulu que la calèche allât seule reconnaître le chemin jusqu'à la porte de Mademoiselle Masson, tandis que nous continuerions à marcher. La soirée était réellement des plus agréables. La nuit était venue, mais il faisait le plus beau clair de lune possible. Notre promenade pouvait réveiller le souvenir de celle autour de nos châteaux en Europe dans les belles soirées d'été. La calèche revenue, l'empereur n'a point voulu y monter encore. Il l'a envoyé attendre chez Madame Bertrand, et quand il y a été rendu, il a voulu continuer encore à pied jusqu'à Longwood, où il est arrivé très fatigué. Il avait marché près de 6 000, ce qui est beaucoup pour lui, qui n'avait jamais été marcheur à aucune époque de sa vie. Mardi 13 au vendredi 16, mauvaise température de Sainte-Hélène, observation importante sur l'esprit de ce journal. J'ai déjà dit qu'il n'y avait point de saison à Sainte-Hélène. Ce sont seulement des veines de bon et de mauvais temps, fort irrégulières. Il a plu constamment chaque jour, nous n'avons pu sortir à peine que quelques instants. Il me serait difficile d'employer 4 mots à exprimer, durant ces 4 jours, aucune déviation quelconque de notre vie accoutumée. Et ici d'ailleurs je saisis l'occasion de prévenir une fois pour toutes que s'il se rencontre de temps à autre dans le cours de mon journal plusieurs jours réunis sous un même article, c'est que souvent j'ai élagué une partie de ce que chacun d'eux me présentait, ce à quoi j'ai été conduit, comme on le devinera sans peine, par divers motifs. Parfois les objets m'ont paru trop puérils, parfois au contraire ils m'ont semblé trop graves et demandé un temps plus éloigné. Ou bien encore ne présentait-il que des personnalités et il est dans mon caractère de les éloigner soigneusement. Que si, malgré cela, on en trouve quelques-unes, c'est que j'y aurais été forcément conduit par l'objet essentiel de mes récits, qui est de faire connaître le caractère de l'empereur. Et même alors ai-je pu me dire encore, pour ma satisfaction intérieure, que ces personnalités ne concernent guère que des caractères publics et ne mentionnent que des choses déjà connues par beaucoup de monde. Du reste, je ne me suis nullement dissimulé que la tâche que j'ai entreprise pouvait me créer de nombreux inconvénients, mais je me suis cru un devoir sacré et je m'efforce de le remplir du mieux qu'il m'est possible, advienne que pourra. Samedi 17, politique de l'empereur sur les affaires de France. À 6 heures du matin, l'empereur est monté à cheval. Nous avons fait le tour du parc en commençant dans la direction de notre vallée et en venant gagner le chemin qui conduit du camp chez le grand maréchal. Devant la porte de celui-ci, s'est arrêté et mis en ligne pour nous laisser passer un gros de 150 à 200 matelots du Northumberland qui, chaque jour, portent des planches ou des pierres pour le service de longue route ou du camp. L'empereur a parlé aux officiers et a souri avec plaisir à nos anciens compagnons. Ils avaient l'air ravis de le voir. J'ai déjà dit que, de temps à autre, nous recevons des journaux de l'Europe qui nous occupent diversement et amènent toujours à la fin quelques tableaux vifs et animés de la part de l'empereur. Il trouvait bon aujourd'hui qu'en résumé, l'état de la France ne s'était point amélioré. Les Bourbons, répétait-il, n'avaient eu cette fois d'autre parti que celui de la sévérité. 4 mois étaient déjà écoulés, les alliés allaient repartir, on n'avait pris encore que des demi-mesures. L'affaire demeurait mal embarquée. Un gouvernement, disait-il, ne peut vivre que de son principe. Il est évident que celui-ci est le retour aux vieilles maximes. Il fallait le faire franchement. Les chambres, surtout, dans cette circonstance, seront fatales. Elles inspireront au roi une fausse confiance et n'auront aucun poids sur la nation. Bientôt, le roi n'aura plus aucun moyen de communication avec elle. Ce ne sera plus la même religion ni le même langage. Il ne sera personne qui ait le droit de détromper le peuple sur les absurdités qu'il plaira au premier venu de lui débiter lorsqu'on voudra lui faire croire qu'on veut empoisonner les sources, faire sauter le territoire, etc., etc. L'empereur concluait qu'il y aurait quelques exécutions juridiques et un extrême désir de réaction, qu'elle serait assez forte pour irriter, pas assez pour soumettre, et que, tôt ou tard, une éruption volcanique finirait par engloutir le trône, ses alentours et ses partisans. « Si les destinées ont réglé que les Bourbons régneront, disait-il, ce ne sera toutefois que dans quelques générations qu'ils en acquerront la certitude. Quant à présent, ils sont sans doute bien plus mal situés que l'année dernière. Alors on pouvait à toute rigueur les présenter comme médiateurs entre les puissances et la patrie. Ils n'avaient pas contribué directement au déchirement de la patrie, à la flétrissure de la gloire nationale, mais cette fois, ils étaient les alliés de nos ennemis. Ils sont rentrés sur les cadavres et les décombres qu'ils ont provoqués et dont ils se sont réjouis. Ils ont ruiné la nation, ses forces, sa gloire, ses monuments. Ils n'ont pas craint de partager ses dépouilles avec les ennemis et de se réserver la honte et le mépris en partage. Aux yeux de toute la nation, ils ont cessé d'être français, ils se sont proscrits eux-mêmes. Quant à l'Europe, elle semblait à l'empereur aussi enflammée qu'elle l'avait jamais été. Elle avait anéanti la France, mais la résurrection de celle-ci pouvait venir un jour de l'explosion des peuples, que la politique des souverains, du reste, était des plus propres à aliéner. Elle pouvait venir encore de la querelle prochaine des puissances entre elles, ce qui, très probablement, finirait par avoir lieu. Quant à notre affaire personnelle ici, elle ne pourrait s'améliorer que par l'entremise de l'Angleterre, et celle-ci ne pouvait nous devenir favorable que par quelque intérêt politique, quelque changement de ministre, la mort de quelque souverain, ou bien encore par le sentiment de la gloire nationale excité par le torrent de l'opinion. Or, les intérêts politiques, il était des combinaisons qui pouvaient les amener. Quant au changement des personnes, il était dans les accidents du temps. Enfin, pour le sentiment de la gloire nationale, si facile à comprendre, le ministère actuel l'avait méconnu, mais un autre pouvait ne pas y être sensible. Dimanche 18, peinture du bonheur domestique par l'empereur, 2 demoiselles de Lille. L'empereur m'a fait appeler sur les 10 heures, il venait de rentrer. On m'avait dit qu'il était allé à la chasse. Il m'a appris que non, qu'il avait été à cheval vers les 6 heures, mais qu'il n'avait pas voulu qu'on troublât le sommeil de son Excellence. Nous avons travaillé à l'anglais. Le déjeuner est venu, il était détestable, je n'ai pu m'empêcher de le remarquer. Il m'a plaint d'en faire un aussi mauvais et m'a dit qu'il était vrai qu'il fallait avoir faim pour pouvoir le manger. Nous avons continué notre leçon jusqu'à 1 heure, la chaleur alors a commandé le repos. Sur les 5 heures, l'empereur est allé se promener au jardin. Il s'est mis à peindre le bonheur du particulier, honnête et aisé, jouissant paisiblement dans le fond de sa province, des champs et de la maison qu'il a reçue de ses pères. Rien assurément n'était plus philosophique. Nous n'avons pu nous empêcher de sourire à un tableau si paisible, ce qui l'a fait pincer les oreilles de l'un de nous. Du reste, a-t-il continué, ce bonheur ne peut guère aujourd'hui se connaître en France que par tradition. La Révolution a tout bouleversé, elle en a privé les anciens, et les nouveaux sont encore neufs à cette jouissance. Ce que je viens de peindre n'existe plus. Et il faisait alors l'observation qu'être privé de sa chambre natale, du jardin qu'on avait parcouru dans son enfance, n'avoir pas l'habitation paternelle, c'était n'avoir point de patrie. Quelqu'un ajoutait que perdre la mesure qu'on s'était créée après le naufrage, la maison qu'on avait partagée avec sa femme, celle où on avait donné jour à ses enfants, c'était encore perdre sa seconde patrie. Que de monde en était là, et quelle époque avait été la nôtre. Nous sommes montés en calèche et nous avons fait notre promenade accoutumée. Le soir, pendant le dîner, on a parlé des deux demoiselles de Lille, dont l'une est grande, fort belle et très agaçante, l'autre beaucoup moins jolie, mais douce dans ses manières, d'une grâce et d'une tenue parfaite. Tous les avis se partageaient. L'empereur, qui ne connaissait que la première, tenait fortement pour elle. Quelqu'un a pris la liberté de lui dire que s'il voyait la seconde, elle ne lui ferait pas changer d'opinion. Cela ne lui a pas suffi, il a voulu que ce quelqu'un exprimât son propre choix. Celui-ci a répondu qu'il était de beaucoup pour la seconde, ce qui a paru contradictoire. L'empereur a voulu l'explication. « C'est, a répondu ce quelqu'un, que si je voulais acheter une esclave, je me fixerais sur la première, mais que si je trouvais quelque bonheur à le devenir moi-même, je m'adresserais à la seconde. » « C'est donc à dire, a repris vivement l'empereur, que vous me croyez de mauvais goût et de mauvais ton ?»« Non, sire, mais je soupçonne à votre majesté des dispositions différentes des miennes. » Il a ri et n'a pas contredit. Lundi 19. Aujourd'hui, de fort bon matin, l'empereur est sorti pour monter à cheval. Il était à peine 6 heures et pourtant j'étais tout prêt, j'avais donné ordre qu'on m'éveillât. Il a été surpris de me voir là et de me trouver si diligent. Nous avons erré dans les bois, à l'aventure. Nous étions rentrés vers les 9 heures, le soleil commençant déjà à être très chaud. L'empereur, sur les 4 heures, a voulu essayer son anglais, mais il n'était pas bien. Tout dans la journée lui avait paru mauvais, disait-il, rien ne lui avait réussi. La promenade du jardin ne l'a point remis, il n'était pas bien à dîner, il n'a pu faire ses parties d'échecs accoutumées. Il s'est retiré souffrant, aussitôt après la première partie. Mardi 20, travaux de l'empereur à l'île d'Elbe, prédilection des barbaresques pour Napoléon. Le temps a été extrêmement mauvais. L'empereur avait été assez mal toute la nuit. Au matin, il était beaucoup mieux. Il n'est pas sorti de sa chambre avant 5 heures. Vers les 6 heures, nous avons profité d'une éclaircie pour faire le tour du parc en calèche. Les chevaux, dont on nous a gratifiés, sont vicieux. Ils se butent au premier obstacle et demeurent immobiles. Ils se sont arrêtés aujourd'hui plusieurs fois. La pluie rendait leur tâche plus pénible. Un moment, il a fallu réunir tous les efforts pour n'être pas obligé de revenir à pied. Le grand maréchal et le général Gourgaud ont été obligés de mettre pied à terre et de pousser à la roue. Enfin, après bien des peines, nous sommes rentrés. La conversation durant la promenade était sur l'île d'Elbe. L'empereur parlait des chemins qu'il y avait faits, des maisons qu'il y avait bâties. Les meilleurs artistes d'Italie se disputaient l'honneur d'y travailler et sollicitaient comme une faveur de pouvoir les embellir, etc. Il disait que ses couleurs, que son pavillon, étaient devenus les premiers de la Méditerranée. Son pavillon était sacré, disait-il, pour les barbaresques, qui d'ordinaire faisaient des présents au capitaine, leur ajoutant qu'ils acquittaient la dette de Moscou. Le grand maréchal ajoutait que quelques bâtiments réunis de cette nation, étant venus mouillés à l'île d'Elbe, y avait donné beaucoup d'inquiétude. On avait interrogé ces gens-là sur leurs intentions et fini par leur demander nettement s'ils avaient des vues hostiles. Ils avaient répondu « Contre le grand Napoléon, ah, jamais, nous ne faisons pas la guerre à Dieu ». Quand le pavillon de l'île d'Elbe entrait dans un des ports de la Méditerranée, Livourne excepté, il y était reçu avec de vives acclamations. C'était la patrie qui semblait revenir. Quelques bâtiments français, venus de la Bretagne et de la Flandre, qui relâchèrent à l'île d'Elbe, témoignèrent le même sentiment. « Tout est gradation dans le monde, » concluait l'empereur. « L'île d'Elbe, trouvée si mauvaise il y a un an, est un lieu de délices comparé à Sainte-Hélène. Quant à Sainte-Hélène, elle peut défier tous les regrets à venir. » Mercredi 21 au vendredi 23, Piontovski, caricature. L'empereur a continué de se lever de bonne heure et de se promener à cheval, bien que ce fût au pas, seulement dans le parc et au milieu des arbres à gomme. Cependant, ce léger exercice lui était bon. Il le forçait, du moins, à prendre l'air. Il revenait avec meilleur appétit et travaillait avec plus de gaieté. Il déjeunait dans le jardin, sous quelques arbres qu'on avait entrelacés pour lui procurer un peu d'ombrage. Un de ces matins, en se mettant à table, il aperçut au loin le Polonais Piontovski et le fit appeler pour qu'il déjeunât avec lui. Il s'amuse à le questionner quand il le trouve sous ses pas. Piontovski, dont on ne connaît pas trop l'origine, était venu à l'île d'Elbe et avait obtenu d'y servir comme soldat dans la garde. Au retour de l'île d'Elbe, il avait été porté au grade de lieutenant. À notre départ de Paris, il avait reçu la permission de suivre. Il fut à Plymouth du nombre de ceux que les instructions anglaises séparèrent de nous. Piontovski, avec plus de constance ou plus d'adresse que ses camarades, avait obtenu de nous rejoindre. L'empereur, du reste, ne l'avait jamais connu et lui parlait à Sainte-Hélène pour la première fois. Aucun de nous ne le connaissait davantage. Les Anglais furent surpris de notre peu d'empressement à son arrivée. Quelques-uns de ceux qui ne nous aimaient pas écrivaient que nous l'avions fort mal reçu, ce qui était faux. Mais c'en fut assez pour que les papiers ministériels anglais y employassent leur grâce et leur esprit accoutumé. L'empereur l'avait battu, nous l'avions chassé, et l'on m'a parlé plus tard d'une caricature où l'empereur le saisissait dans ses griffes. Moi, j'avais sauté dessus pour le dévorer, et ce n'était qu'à l'aide d'un bâton mis entre mes dents que le conducteur des bêtes venait à bout de m'arracher de son épaule. Voilà les gentillesses élégantes dont on nous rendait l'objet. Samedi 24, retour de l'île d'Elbe, détails, etc. Après dîner, l'empereur, reprenant le café, disait que c'était à peu près vers ce temps que, l'année dernière, il avait quitté l'île d'Elbe. Le grand maréchal lui a dit que c'était le 26 février et un dimanche. « À telles enseignes, sire, que vous avez fait avancer la messe pour avoir plus de temps à dicter des ordres. » L'après-midi même, on était parti. Le lendemain matin, nous étions encore en vue sur les 10 heures, à la grande anxiété de ceux qui s'intéressaient à notre succès. L'empereur, s'abandonnant à la conversation, a causé plus d'une heure des détails de cet événement unique dans l'histoire par la hardiesse de l'entreprise et les merveilles de l'exécution. Je renvoie plus loin son récit. Dimanche 25 au mercredi 28, campagne d'Italie et d'Égypte, opinion de l'empereur sur nos grands poètes, tragédie moderne, Hector, les états de Blois, Talma. La plupart de nos journées se ressemblaient beaucoup. Si elles nous semblaient longues en détail, elles se perdaient rapidement dans le passé et ne nous laissaient que des souvenirs vagues. L'anglais allait de mieux en mieux. L'empereur convenait avoir eu un moment de dégoût. Il avait un instant, me disait-il, vu passer sa Furia Francese. Mais je l'avais ranimé, disait-il, par une méthode qu'il trouvait sûre, infaillible, la meilleure de toutes les méthodes, celle de lire et d'analyser une seule page et de la recommencer jusqu'à ce qu'elle fût sue imperturbablement. Les règles grammaticales s'expliquent chemin faisant. De la sorte, il n'y a pas un moment de perdu pour l'étude et la mémoire. Les progrès semblent lents d'abord, on croit avancer peu, mais quand on arrive à la 50e page, on est tout étonné de savoir la langue. Nous avions donc ajouté une page de Télémaque au reste de notre leçon, et nous nous en trouvions très bien. De reste, l'empereur en ce moment, bien qu'il n'eût encore que 20 ou 25 leçons complètes, parcourait tous les livres, aurait fait entendre par écrit ce dont il eut besoin. Il ne comprenait pas tout, il est vrai, mais on ne pouvait désormais rien lui cacher, disait-il, et c'était immense, c'était une conquête achevée. La campagne d'Égypte était complétée avec Bertrand, autant que le manque de matériaux pouvait le permettre. l'empereur entamait avec l'un de ses messieurs une nouvelle époque bien précieuse, celle du départ de Fontainebleau jusqu'au retour à Paris et sa seconde abdication. Il ne possédait aucune pièce sur ces événements si rapides, mais c'est cette rapidité qui me faisait le supplier d'employer sa mémoire à consacrer des circonstances que les événements ou l'esprit de parti pourraient affaiblir ou dénaturer. L'empereur revoyait aussi fort souvent avec moi les divers chapitres de la campagne d'Italie. Le moment qui précédait le dîner était consacré d'ordinaire à cette révision. Il m'avait chargé de couper chaque chapitre d'une manière régulière, uniforme, d'en indiquer les paragraphes convenables, d'en noter ou d'en recueillir les pièces justificatives, etc., etc. C'est ce qu'il appelait la triture ou la charlatanerie de l'éditeur. « Et cela vous regarde, me disait-il un jour, avec une grâce et une bonté qui me pénétraient. Ce sera désormais votre bien. La campagne d'Italie portera votre nom, et la campagne d'Égypte celui de Bertrand. Je veux qu'elle fasse tout à la fois la fortune de votre poche et celle de votre mémoire. Vous aurez toujours bien là 100 000 francs, et votre nom durera autant que le souvenir de mes batailles. » Quant à nos après-dîners, le reversi était tombé à plat une seconde fois, sa reprise n'avait pu durer. Dès le deuxième ou troisième jour, les cartes étaient abandonnées pour la conversation. Nous avions repris nos lectures, nos romans étaient épuisés, les pièces de théâtre nous occupaient en ce moment, les tragédies surtout. L'empereur les aime particulièrement et se plaît à les analyser. Il y porte une logique singulière et beaucoup de goût. Il sait une foule de vers dont il se souvient depuis son enfance, époque, dit-il, où il en savait beaucoup plus qu'aujourd'hui. L'empereur est ravi de Racine, il y trouve de vraies délices. Il admire éminemment Corneille et fait fort peu de cas de Voltaire, plein, dit-il, de boursouflures, de clinquants, toujours faux, ne connaissant ni les hommes, ni les choses, ni la vérité, ni la grandeur des passions. L'empereur, un de ses couchers à Saint-Cloud, analysait la pièce qui venait de se jouer. C'était Hector, par Luce de Lancival. Cette pièce lui plaisait beaucoup. Elle avait de la chaleur, de l'élan. Il l'appelait une pièce de quartier général, assurant qu'on irait mieux à l'ennemi après l'avoir entendu, qu'il en faudrait beaucoup dans cet esprit, etc. De là, passant au drame qu'il appelait les tragédies des femmes de chambre, il les disait capables de supporter au plus la première représentation. Ils allaient ensuite toujours en perdant. Une bonne tragédie, au contraire, gagnait chaque jour davantage. La haute tragédie, continuait-il, était l'école des grands hommes. C'était le devoir des souverains de l'encourager et de la répandre. Et il n'était pas nécessaire, prétendait-il, d'être poète pour la juger. Il suffisait de connaître les hommes et les choses, d'avoir de l'élévation et d'être homme d'État. Et s'animant par degrés, la tragédie, disait-il avec chaleur, échauffe l'âme, élève le cœur, peut et doit créer des héros. Sur ce rapport, peut-être la France doit à Corneille une partie de ses belles actions. Aussi, messieurs, s'il vivait, je le ferais prince. » Une autre fois, pareillement à son coucher, il analysait et condamnait les états de Blois qu'on venait de jouer sur le théâtre de la cour pour la première fois. En apercevant parmi nous l'archi-trésorier Lebrun, littérateur fort distingué, il lui demanda son opinion. Celui-ci, sans doute dans l'intérêt de l'auteur, se contenta de répondre que le sujet était mauvais. « Mais ce serait la première faute de Monsieur Renoir, répliqua l'empereur. Il l'a choisi lui-même, personne ne le lui a imposé. Et puis, il n'est pas de sujet si mauvais dont le grand talent ne sache tirer quelque parti, et Corneille serait encore sans doute Corneille, même dans celui-ci. Quant à Monsieur Renoir, il a manqué tout à fait son affaire. Il ne montre ici d'autre talent que celui de la versification, tout le reste est mauvais, très mauvais. » Sa conception, ses détails, son résultat sont manqués. Il viole la vérité de l'histoire. Ses caractères sont faux, sa politique est dangereuse et peut-être nuisible. Cette circonstance me confirme, ce que du reste chacun sait bien, qu'il est une énorme différence entre la lecture et la représentation d'une pièce. J'avais cru d'abord que celle-ci pouvait passer, ce n'est que ce soir que j'en ai vu les inconvénients. Les éloges prodigués aux Bourbons sont les moindres, les diatribes contre les révolutionnaires sont bien pires. Monsieur Renoir a été faire, du chef des 16, le capucin Chabot de la Convention. Il y a dans sa pièce pour tous les partis, pour toutes les passions. si je la laissais donner dans Paris, on pourrait venir m'apprendre que 50 personnes se sont égorgées dans le parterre. De plus, l'auteur a fait de Henri IV un vrai Philinte et du duc de Guise un Figaro, ce qui est trop choquant en histoire. Le duc de Guise était un des plus grands personnages de son temps, avec des qualités et des talents supérieurs, et auxquels il ne manqua que d'oser pour commencer dès lors la quatrième dynastie. De plus, c'est un parent de l'impératrice, un prince de la maison d'Autriche avec qui nous sommes en amitié, dont l'ambassadeur était présent ce soir à la représentation. L'auteur a plus d'une fois étrangement méconnu toutes les convenances. Et l'empereur disait ensuite se raffermir plus que jamais dans la détermination qu'il avait prise de ne pas laisser jouer une tragédie nouvelle sur le théâtre public avant qu'elle n'eût été mise à l'épreuve sur le théâtre de la cour. Il fit donc interdire la représentation des États de Blois. Mais ce qui est bien digne de remarque, c'est que sous le roi, cette pièce a reparu solennellement avec toute la faveur que devait lui donner la proscription de l'empereur, et qu'elle est tombée néanmoins, tant avait été juste le jugement que Napoléon en avait porté. Talma, le célèbre tragique, parvenait très souvent jusqu'à l'empereur, qui faisait grand cas de son talent et le récompensait magnifiquement. Quand le premier consul devint empereur, les bruits de Paris furent qu'il faisait venir Talma pour prendre des leçons d'attitude et de costume. L'empereur, qui n'ignorait jamais rien de ce qui se disait contre lui, en plaisantait un jour Talma. Celui-ci en demeurait déconcerté, confondu. « Vous avez tort, lui disait l'empereur, je n'aurais sans doute eu rien de mieux à faire si toutefois j'en avais eu le temps. » Et alors c'était lui qui donnait à Talma des leçons sur son art. « Racine, lui disait-il, a mal à propos chargé Oreste en niaiserie, et vous le chargez encore davantage. Dans la mort de Pompée, vous ne jouez pas César en grand homme. Dans Britannicus, vous ne jouez pas Néron en tyran, etc. » Et tout le monde sait que ce grand acteur a fait en effet depuis de grandes corrections dans ses rôles fameux. Jeudi 29, les faiseurs d'affaires dans la Révolution, crédit de l'empereur à son retour, sa réputation dans les bureaux comme vérificateur, ministre des Finances, du Trésor, cadastre. Après le travail, l'empereur a été se promener dans le jardin. Nous sommes ensuite montés en calèche. Il faisait tout à fait nuit et pleuvait fort quand nous sommes rentrés. Après le dîner et pendant le café que nous avons pris à table dans la salle à manger, la conversation est tombée sur ce qu'on appelle à Paris les gens d'affaires, les grandes fortunes acquises dans la Révolution. Il n'était pas une de ces personnes dont l'empereur ne connut le nom, la famille, les affaires et le degré de moralité. À peine le premier consul, il se trouva aux prises, dit-il, avec la célèbre Madame Récamier. Son père avait été placé dans les postes. Napoléon, en entrant au gouvernement, avait été obligé de signer, de confiance, une foule de listes. Mais il eut bientôt établi une grande surveillance dans toutes les parties. Il trouva qu'une correspondance avec les Chouans se faisait sous le couvert de M. Bernard, père de Madame Récamier. Il fut aussitôt destitué et courait risque d'être jugé et mis à mort. Sa fille accourut auprès du premier consul, et sur ses sollicitations, le premier consul voulut bien faire grâce du procès, mais il fut inébranlable sur le reste, et Madame Récamier, habituée à tout obtenir, ne prétendait à rien moins qu'à la réintégration de son père. Telles étaient les mœurs du temps. Cette sévérité de la part du premier consul fit jeter les hauts cris, on n'y était pas accoutumé. Madame Récamier et ses partisans, qui étaient fort nombreux, ne la lui pardonnèrent jamais. Les fournisseurs et les faiseurs d'affaires étaient ceux surtout qui tenaient le plus au cœur du nouveau magistrat suprême, qui appelait cette classe le fléau, la lèpre d'une nation. L'empereur faisait l'observation que la France entière n'aurait pas suffi alors à ceux de Paris. Qu'à son arrivée à la tête des affaires, ils composaient une véritable puissance et qu'ils étaient des plus dangereux pour l'État, dont ils obstruaient et corrompaient les ressorts par leurs intrigues, celles de leurs agents et de leurs nombreuses clientèles. Au vrai, ils ne pouvaient, disait-il, jamais présenter que des sources empoisonnées et ruineuses, à la façon des Juifs et des usuriers. Ils avaient déconsidéré le directoire et ils prétendaient bien diriger aussi le consulat. On peut dire qu'ils composaient alors la tête de la société, qu'ils y tenaient le premier rang. « Un des plus grands pas rétrogrades, disait l'empereur, que je fis faire à la société, vers son état et ses mœurs passées, fut de faire rentrer tout ce faux lustre dans la foule. Jamais je n'en voulus élever aucun aux honneurs. De toutes les aristocraties, celle-là me semblait la pire. » L'empereur rend à Lebrun la justice de l'avoir affermi spécialement dans ce principe. « Ce parti m'en a toujours voulu depuis, disait Napoléon, mais ce qu'il m'a bien moins pardonné encore, c'est l'inquisition sévère que je faisais exercer dans leur compte vis-à-vis du gouvernement. » L'empereur disait avoir fait à ce sujet un usage admirable de son conseil d'État. Il nommait une commission de 4 ou 5 de ses membres, gens intègres et capables, il lui faisait leur rapport, et lui, premier consul ou empereur, n'avait plus, s'il y avait lieu à des poursuites, qu'à apposer au bas, renvoyer au grand juge pour faire exécuter les lois. Arrivé à ce point, les impliqués venaient d'ordinaire à composition. Ils regorgeaient 1, 2, 3, 4 millions plutôt que de se laisser poursuivre. L'empereur savait bien que tous ces faits étaient faussement représentés dans les cercles de la capitale, qui lui créaient une foule d'ennemis, lui attiraient des reproches d'arbitraire et de tyrannie. Mais il acquittait un grand devoir vis-à-vis de la société en masse, et elle devait, pensait-il, lui tenir compte de pareilles mesures vis-à-vis de ses sangsues publiques. « Les hommes sont toujours les mêmes, disait Napoléon. Depuis Pharamond, les traitants se sont toujours conduits ainsi, et on en a toujours usé de même à leur égard. Mais à aucune époque de la monarchie, ils n'ont été attaqués avec des formes aussi légales, ni abordés avec autant d'énergie et de franchise que par moi. L'opinion des gens d'affaires eux-mêmes était bien différente de celle des salons. » Ceux qui avaient de la moralité et de la droiture trouvaient même une nouvelle garantie dans cette extrême sévérité, et il s'en est vu une preuve bien remarquable au retour de l'île d'Elbe. Les maisons de Londres, d'Amsterdam, m'ont ouvert secrètement un crédit de 80 à 5 millions, au simple taux de 7 à 8 %. L'argent qu'elles déposaient au trésor de Paris, net de tout, leur était payé par des rentes sur le grand livre à 50. Elles étaient alors pour le public à 56 ou 57. Cette ressource, si utile pour les affaires, dans la crise où l'on se trouvait, et si satisfaisante, si flatteuse pour celui qui en était l'objet, prouve l'opinion véritable que l'on avait en Europe sur l'empereur et la confiance qu'il inspirait dans les affaires. Cette négociation, inconnue dans le temps, explique ce qu'on ne comprit pas alors à Paris, les moyens financiers que l'empereur se trouva posséder tout à coup à son retour. L'empereur jouissait d'une réputation singulière parmi tous les bureaucrates et les faiseurs de chiffres. C'est qu'il s'y entendait réellement beaucoup lui-même. « Ce qui commença ma réputation, disait-il, fut que, vérifiant la balance d'une année lors du consulat, je relevais une erreur de 2 millions qui se trouvait au désavantage de la République. » Monsieur Dufresne, alors chef de la trésorerie, au demeurant parfaitement honnête, n'en voulait d'abord rien croire. Pourtant, c'était une affaire de chiffres, il fallut bien en convenir. On fut plusieurs mois à la trésorerie à pouvoir découvrir l'erreur. Elle se trouva enfin dans un compte du fournisseur Séguin, qui en convint aussitôt sur la présentation des pièces et restitua, disant qu'il s'était trompé. Une autre fois, Napoléon, visitant la solde de la garnison de Paris, marqua un article de 60 et quelques 1000 francs affecté à un détachement qu'il assura n'avoir jamais été dans la capitale. Le ministre nota cet objet comme par complaisance, intérieurement convaincu que l'empereur se trompait. C'était pourtant vrai, et la somme dut être établie. L'empereur regardait comme de la plus haute importance la séparation du ministère des Finances d'avec celui du Trésor. Elle amenait une distinction des objets et créait un contrôle mutuel. Le ministre du Trésor était, sous un chef tel que lui, Napoléon, l'homme le plus important de l'Empire, disait-il, non pas comme ministre du Trésor, mais comme contrôleur général. Toutes les ordonnances de l'Empire lui passaient sous les yeux. Il pouvait donc découvrir les vols et les abus de quelque part qu'ils vinssent et les faire connaître en secret au souverain, ce qui arrivait en effet journellement. La spécialité était un autre point sur lequel il s'arrêtait avec complaisance comme ayant été un des ressorts les plus heureux de son administration. parlant du cadastre tel qu'il l'avait arrêté, il disait qu'il eût pu être considéré à lui seul comme la véritable constitution de l'Empire, c'est-à-dire la véritable garantie des propriétés et la certitude de l'indépendance de chacun. Car une fois établi et la législature ayant fixé l'impôt, chacun faisait aussitôt son propre compte et n'avait plus à craindre l'arbitraire de l'autorité ou celui des répartisseurs, qui est le point le plus sensible et le moyen le plus sûr pour forcer à la soumission. L'empereur, durant cette conversation, a donné son opinion sur les talents et le caractère de messieurs Gaudin, Molien, Louis, ainsi que sur la plupart de ses autres ministres et conseillers d'État, et a terminé le sujet en concluant qu'il était venu à bout de créer une administration la plus pure et la plus énergique sans doute de l'Europe, et qu'il en possédait tellement les détails lui-même qu'il pensait qu'avec les moniteurs seuls, il serait en état de tracer ici l'histoire de toute l'administration financière de la France durant son règne.